France Musique.
Très belle journée à vous, Karine Le Bail, et à dimanche prochain, bien sûr.
France Musique.
À l'automne dernier, c'était le 27 octobre exactement, la fondation Louis Vuitton ouvrait ses portes au public. 400 000 visiteurs se sont pressés depuis dans ce bâtiment qui déploie ses ailes de verre au cœur du bois de Boulogne, à l'ouest de Paris. C'est Franck Guéry, l'un des très grands architectes de notre temps, qui l'a conçu. Le lieu est dédié à l'art contemporain, mais on y fait de la musique également. C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro de l'Air des Lieux. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 17h.
Oh, what an elegant room!
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
Fantastique. On aura tout fait.
Tout. Écoute, tout fait.
C'est ça la fondation Louis Vuitton. C'est mis à disposition des visiteurs. C'est vachement pratique. Tu te rends compte direct. Étoile ici, on a traversé le bois de Boulogne. Où c'est que tu veux ?
L'air de Lio à la Fondation Louis Vuitton.
La Fondation Louis Vuitton, Jean-Paul Clavery, ça signifie quoi exactement ?
Un voyage dans l'émotion, un voyage dans la sensibilité, un voyage dans le plaisir de la découverte. Voilà, c'est un peu ce qui a conduit Bernard Arnault et Franck Guéry dans la réalisation de ce projet.
L'air des lieux à la Fondation Louis Vuitton avec Gauthier Capuçon sur France Musique jusqu'à 17h.
Ah, j'ai mal coupé là. C'est pas bon. J'aurais dû. Après Capuçon, il fallait marquer un temps.
Bienvenue à la troisième session de la classe d'excellence de la Fondation Louis Vuitton. Donc ce matin, on va travailler avec Aurélien Pascal.
Je recommence. Mais tu sais, une fois, tu me l'as fait faire 5 fois.
L'air des lieux à la Fondation Louis Vuitton avec Gauthier Capuçon.
Et on va travailler aujourd'hui avec Aurélien le premier mouvement du concerto de Dvorak.
Sur France Musique jusqu'à 17h.
Jean-Paul Clavery, je vais vous demander d'abord de vous présenter, si vous le voulez bien. On ouvre ce nouveau numéro de l'Air des Lieux avec vous sur France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Quelles sont vos fonctions officielles, tout d'abord ?
Ah, écoutez, je suis conseiller de Bernard Arnault, voilà, depuis plus de 20 ans. Et nous avons envisagé l'idée d'une fondation lors de notre première rencontre au début des années 90. Et voilà, donc nous avons été patients, tenaces, mais voilà, le résultat est à la mesure de cette patience et de cette ténacité.
Alors le résultat, nous l'avons sous les yeux, c'est cette fondation Louis Vuitton que je découvre, figurez-vous, aujourd'hui avec vous. Vous allez être notre guide dans cette émission. J'aimerais tout d'abord qu'on situe un peu les choses et les lieux, la géographie. On est à quel endroit ici dans Paris ? Il faut faire quel chemin, au fond, par exemple, quand on est parisien, au centre de la capitale, pour venir jusqu'à la fondation Louis Vuitton, Jean-Paul Clavery ?
Écoutez, si on est très bon marcheur, on peut venir à pied. Si on prend le métro, on prend le métro, la ligne 1, et on sort à Sablon. Et là, c'est très bien indiqué pour venir jusqu'à la Fondation, puisque la Fondation est située sur le site du jardin d'acclimatation. Bon, il y a une parcelle d'un hectare qui a été détachée pour lui donner son identité propre. Et elle est donc vers le sud, tournée sur le bois de Boulogne, et au nord, tournée sur le jardin d'acclimatation. Et donc, en sortant du métro, vous mettez 10 minutes à pied. Voilà. Et puis, il y a une autre façon de venir à la Fondation. C'est depuis depuis l'avenue de Friedland, le haut de l'avenue de Friedland, quasiment à l'étoile, la navette de la Fondation qui, pour 1 euro, permet au public de venir directement donc de l'étoile à la Fondation et de retourner d'ailleurs à l'étoile avec cette navette.
Alors, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à un lieu quand on, justement, vous disiez, ça fait très longtemps qu'avec Bernard Arnault, on songeait à créer une fondation, cette fondation Louis Vuitton. Ensuite, on trouve l'architecte, on va en parler dans quelques instants, c'est Franck Guéry, bien entendu. Et puis, il faut trouver le lieu dans une ville comme Paris. Donc, les choses se décident et se discutent au fond de quelle façon, à la fois avec Bernard Arnault, mais aussi avec l'architecte qui va être le maître d'œuvre de ce bâtiment, Jean-Paul Claverie.
Dès que nous avons pensé à cette fondation, nous avons envisagé l'opportunité du jardin d'acclimatation. Simplement, au début des années 90, c'est vrai que les opportunités de construire sur le jardin d'acclimatation, parce que c'est une zone très sensible, très protégée, et heureusement, et inconstructible, normalement, mais ce qu'on a le droit de faire, c'est de détruire des bâtiments vétustes ou insalubres, voire insécures pour le public, et de reconstruire au mètre carré près. C'est ce que nous faisons avec la Fondation. Alors, les choses ont mis un peu de temps parce que il y avait une sous-concession qui était le Bowling de Paris, l'endroit exact où a été construite la Fondation. Alors, le Bowling de Paris, en fait, nous n'avons pu le récupérer que en 2001-2002. Il appartenait à une société américaine et d'un coup d'un seul, nous avons disposé de 5000 mètres carrés de plus que ce que nous pouvions récupérer sur l'ensemble des 20 hectares du jardin d'acclimatation. Et alors, il y a eu là, je ne sais pas si j'ai jamais regardé les astres, mais une conjonction assez formidable, puisqu'il y a eu donc cette opportunité. Et au même moment, nous allons avec Bernard Arnault à Bilbao. Il découvre le Guggenheim de Bilbao. Il est tout à fait séduit par la créativité, la force de ce bâtiment. Et très vite après, le mois suivant, nous rencontrons Franck Guéry à New York. Et en février 2002, Franck Guéry est invité par Bernard Arnault à Paris à voir ce site. Voilà. Et c'est le début de l'aventure.
Thank you.
Alors, vous citez le nom de Franck Guéry, évidemment, l'architecte de cette fondation Louis Vuitton, Jean-Paul Clavry, le musée Guggenheim à Bilbao, qui a fait non seulement une partie de la réputation de cet architecte, la renommée aussi moderne, si j'ose dire, de cette ville. Les mélomanes et les gens qui écoutent France Musique, ils associent aussi le nom de Franck Guéry, évidemment, à la grande salle de concert de Los Angeles, le Walt Disney Concert Hall. Est-ce que vous diriez que le bâtiment que nous avons ici à Paris sous les yeux, il a un peu à voir ou pas avec justement cette grande salle de concert de Los Angeles dans son dessin?
Il a à voir parce que...
Tournez un peu les yeux, Jean-Paul Clavry.
Oui. Il est dans son dessin. Oui, il est. On reconnaît Franck Guéry, mais il est très très différent du Walt Disney Hall ou du Guggenheim de Bilbao, parce que Franck Guéry il a 85 ans, mais il est en perpétuelle, je dirais, ébullition créative. Et ce qu'il a conçu pour la Fondation Louis Vuitton, c'est du Guéry. On retrouve énormément de signes, je dirais, identitaires de Franck, mais il est très très différent. Il est très différent pourquoi ? Parce que le client est différent, parce que le lieu est différent et parce que la vocation est différente.
Alors le lieu, c'est le jardin d'acclimatation et oui. C'est à la fois la grande ville et en même temps la nature. J'imagine que le projet d'un architecte, il naît aussi de ces considérations-là.
Oui, ça a été un élément extrêmement important parce que Franck, quand il est venu ici la première fois, il a dit « ce site est tellement particulier, d'abord il me fait penser à Proust ». Et il a cité Proust, il venait de Los Angeles, je ne sais pas si c'est si fréquent.
Il n'était pas revenu, je crois, depuis les années 60, il raconte cela.
Il a vécu à Paris au début des années 60, pendant 2 ans. Il a appris son métier d'architecte à Paris et il a créé son studio d'architecture après être rentré aux États-Unis. Voilà. Et c'est à Paris qu'il a connu des gens comme Claude Parent, et c'est là qu'il a découvert la culture architecturale française en particulier, si on veut parler d'architecte à architecte. Donc Franck est très connaisseur de l'art roman et par exemple de Le Corbusier. Et vous avez une des salles qui se situe, je dirais, au dernier étage de la Fondation, qui est un hommage à Ronchamp, à Le Corbusier. Donc Franck était, je crois, très heureux, très ému de venir à Paris et d'envisager un projet à Paris. Lors de cette première visite de Franck ici au Jardin d'acclimatation, il a donc pensé à l'histoire de ce jardin créé au 19e siècle par Napoléon III, où Proust en effet a joué enfant, mais il a dit je dois me comporter ici en invité. Ce lieu est tellement sensible, ce parc est tellement green, est tellement, je dirais, la notion écologique de le bâtiment que je pourrais imaginer ne doit pas venir en agression par rapport au site, il doit venir en dialogue par rapport au site, en respect de l'environnement, en respect de la nature. Et je crois que le bâtiment que vous avez aujourd'hui face à vous est un bâtiment qui dialogue avec les arbres, avec le ciel, avec la lumière, avec l'eau aussi, puisqu'il a l'idée tout de suite de poser le bâtiment sur un immense miroir d'eau de 200 mètres de long par 50 de large. Et tout cela, ce sont les éléments constitutifs du bois de Boulogne. Dans le bois de Boulogne, vous n'avez pas un lac, pas une rivière qui soit naturelle. Tout a été créé, je dirais, par Alphand quand il a imaginé le bois de Boulogne. Et Franck a intégré cette notion de respect de l'environnement. Et vous avez ici un bâtiment qui est extrêmement écologique.
Thank you. Le respect, enfin l'intégration d'un bâtiment comme celui-ci, justement, il passe par les matériaux. Vous disiez, cette fondation Vuitton, c'est du guéri, mais c'est un geste singulier. Ça passe par les matériaux et ça passe par le verre, notamment. On parle du nuage à propos de cette fondation Louis Vuitton. Vous diriez ça aussi, Jean-Paul Claverie?
Oui. L'utilisation du verre de ce bâtiment est très, très importante et elle n'est quasiment qu'artistique. Le verre est en fait une sorte de voile qui enveloppe le corps central du bâtiment, parce que le bâtiment, vous en avez deux en un, si on peut dire. Vous avez un bâtiment central qui est tout blanc, que Franck appelle l'iceberg, et ce corps central est enveloppé par 12 voiles de verre, portées par des structures extrêmement complexes, et ce verre n'a pas d'autre fonction qu'une fonction émotionnelle, artistique. Le dialogue aussi avec l'environnement, avec la nature, la lumière, c'est vraiment l'expression d'un artiste. C'est comme une sorte d'immense sculpture qui donne d'emblée le côté emblématique du bâtiment, un bâtiment pour les artistes, pour la création, pour l'émotion.
Et qui joue aussi de la transparence, puisqu'on vient aussi visiter et découvrir cette fondation Louis Vuitton, Jean-Paul Claverie, à l'occasion des classes de violoncelle qui donne Gauthier Capuçon. On l'a aperçu, là, tout en bas, tout à l'heure, déjà travaillé avec six jeunes gens qui ont été auditionnés et choisis pour ces classes.
Oui, parce que dans ce bâtiment, qui est principalement dévolu à l'art contemporain, donc des expositions, des créations d'artistes plasticiens, Bernard Arnault a souhaité qu'il y ait un auditorium qui permet une ouverture pluridisciplinaire. La musique d'abord, mais aussi la poésie, la danse, des conférences, enfin voilà, toute une série d'expressions artistiques de notre mode contemporain.
Des lieux à la Fondation Louis Vuitton sur France Musique jusqu'à 17h.
On décrit ce hall en quelques mots, Jean-Paul Claverie.
Alors ce hall donc est un hall traversant C'est un pont en fait entre le bois de Boulogne au sud,
avenue et du Mahatma Gandhi,
avenue du Mahatma Gandhi,
la fondation.
Et le jardin d'acclimatation. Vous avez sur la gauche une librairie principalement consacrée aux arts plastiques, à l'architecture, au design. Face à vous, vous avez le restaurant de la fondation. Dans ce restaurant qui est un peu un aquarium comme ça, parce qu'il est entièrement vitré, il donne sur le jardin, la lumière y rentre. Vous avez une sculpture, ce sont 16 poissons créés par Franck Guéry, parce que Franck Guéry est aussi un sculpteur, un artiste, et le poisson est une des images de marque de Franck. Et sur la droite, vous avez l'auditorium de la Fondation qui a la grande particularité de recevoir la lumière du jour et d'être ouvert sur l'extérieur et de donner sur ce magnifique bassin et sur la cascade que Franck a placée à l'est du bassin et qu'il a composé d'ailleurs, il le dit, comme une partition de musique. Et l'eau qui s'écoule sur les marches de cet escalier monumental est réglé un peu comme une partition. Et il émet un bruit qui permet d'isoler l'intérieur du jardin du bruit de l'avenue. Donc ça a une vocation musicale.
Connaissez évidemment par cœur ce lieu, qui en avait suivi le projet depuis les prémices, le tout début, qui connaissait donc bien aussi Franck Guéry. Il est quel type de personnalité, Franck Guéry?
C'est une personnalité. Oui, il a une personnalité. Il sait ce qu'il veut. Il a des partis pris qu'il affiche très très clairement. Mais c'est un personnage extrêmement généreux et comme il dit toujours, if you're happy, I am happy. Et il ne le dit pas comme une formule, comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'il vit. Et qu'il écoute les autres, il écoute les gens, et il aime être en harmonie avec son interlocuteur. Et ce qui est, pour en revenir aussi à la musique, les deux passions personnelles de Franck Guéry, c'est la musique et la voile. Et vous avez dans ce bâtiment les 12 voiles qui enveloppent le bâtiment. Elles sont inspirées de bateaux à voile, d'un voilier. Mais il a une vraie passion pour la musique. Il a construit, vous le disiez, le Walt Disney Hall, qui est une des meilleures salles, je crois, de concert au monde. Et vous savez que l'un de ses meilleurs amis, dit peut-être son meilleur ami, c'est Pierre Boulez. L'auditorium, justement, avec Gauthier Capuçon et ses jeunes élèves musiciens. J'aimerais qu'on fasse rapidement un tour. Il y a des maquettes de Franck Guéry ici qu'on peut voir notamment. C'est-à-dire que pour l'ouverture, nous avons voulu présenter au public les secrets de l'élaboration de ce bâtiment.
Niveau 1, la journée. Galerie.
C'est une exposition sur le bâtiment, comme je vous le disais, avec une musique de Pierre Boulez, d'ailleurs, que vous entendez, et qui permet, au travers des 50 maquettes qui sont présentées, de comprendre comment tout cela s'est passé, comment ça a eu lieu. Et puis sur les deux murs, je dirais de chaque côté, vous avez un film qui a été réalisé par un drone, qui a survolé l'ensemble du bâtiment et qui permet de... Voilà, le rêve de chacun quand on est face au bâtiment, c'est de pouvoir voir au-dessus comment un oiseau verrait ce bâtiment. Voilà, donc vous avez ce film et sur le mur central, vous avez le tout premier dessin, la première esquisse du bâtiment qui a été agrandi,
ça, c'est
reproduit.
C'est assez étonnant quand même.
Et c'est assez étonnant.
Si vous pourriez le décrire, Jean-Paul Clavry. Ben,
c'est un dessin où vous retrouvez dans exactement... je dirais c'est préliminaire, mais je dirais le mouvement du bâtiment, l'élan que prend ce bâtiment et tous les signes, toutes les lignes de force de l'architecture sont déjà dans ce dessin que Franck a réalisé après sa première visite en rentrant à Los Angeles dans son avion. Comme il le dit, il n'a pas dormi une minute, il a noirci un carnet entier de dessins et vous aviez tous les grands principes de l'architecture, le bassin, le pilier central qui supporte l'ensemble des voiles de verre, je dirais tout ce bâtiment qui est en mouvement, qui donne l'impression de s'élancer vers le ciel. Ben voilà, vous aviez déjà tous ces points forts dans ce premier dessin. Et puis là, il y a tout l'ensemble
du
dessin comme un carnet de croquis.
Ouais, voilà. Je propose qu'on aille voir l'auditorium alors.
Absolument.
Du coup.
Alors cet auditorium, comme vous le disiez, il est ouvert sur le bassin. Il est lui-même l'écrin d'une commande à l'un des plus grands artistes américains qui est Ellsworth Kelly. Donc Ellsworth Kelly, qui est très proche de Frank Gehry, à notre demande, a créé une œuvre globale. Ce sont ces très grands panneaux de couleurs, de toutes les couleurs, jaune, bleu, rouge, violet. Et bon, là, le rideau a été levé parce que vous avez là un immense tableau comme rideau de scène, qui est un tableau que Kelly a peint spécialement pour l'auditorium. Ah oui. Là, vous avez le rideau acoustique, c'est un peu créé donc par Frank, qui permet de renvoyer la musique sur le spectateur. Mais donc l'auditorium est un écrin à une des commandes passées par la Fondation.
Merci beaucoup Jean-Paul Clavry. J'imagine que quand on a suivi pendant d'aussi nombreuses années quand même la genèse d'un bâtiment et d'une fondation comme celle-ci, puis que le projet voilà sort de terre et que la fondation ouvre, c'était le cas il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, mais bon, c'est comme voilà un projet qu'on porte aussi longtemps et après j'ai envie de dire, il faut le faire vivre, mais c'est aussi un moment particulier.
L'ouverture au public le 27 octobre, c'est la fin d'une très grande aventure, mais le début d'une autre, en effet, c'est la fin de l'aventure architecturale, le rêve qu'on a porté pendant une quinzaine d'années se trouve maintenant réalisé, il existe, et maintenant, c'est la grande émotion, le grand enjeu, c'est le plaisir du public. C'est que le public puisse maintenant venir à la fondation, y rencontrer les artistes, c'est l'enjeu de cette fondation, les artistes au travers de leurs œuvres, au travers de leurs créations, et les artistes de tout genre, de toute nationalité. Comme je vous le disais, un mois et demi après l'inauguration, 400 000 personnes sont déjà venues à la fondation, et ça c'est une grande fierté, mais surtout une grande émotion, et ça en impose beaucoup.
France Musique. L'air des lieux à la Fondation Louis Vuitton avec Gauthier Capuçon sur France Musique jusqu'à 17h.
Vous avez donné quand des leçons pour la première fois, Gauthier Capuçon, parce que, enfin, on peut encore dire votre âge.
Ah,
à l'âge
sûr.
Que vous avez.
Ouais, ouais.
33. 33.
Bah, si mes souvenirs sont bons, 33.
Ouais,
ouais, 33.
33.
Donc, je suis né en 81.
Et les premières leçons, vous les avez données à quel âge ?
Mais assez jeune. Moi, j'ai le souvenir, il me semble que c'était une de mes premières masterclass à Mexico. Et je pense que j'avais 20 ans.
Quel type de leçons on donne quand on a 20 ans et quand on est soi-même évidemment lancé dans la carrière, mais encore tout de même un pas dans la formation et dans l'apprentissage, dans les études d'une certaine façon.
J'avais plus peur que les étudiants vont jouer. J'étais terrorisé. Bah oui, parce que j'avais bien sûr aucune expérience. Je commençais à avoir j'avais une toute petite expérience. Moi, c'était mes débuts, mais non, je pense qu'à n'importe quel âge, n'importe quelle expérience de vie, finalement, c'est comme une classe, c'est autre chose. Une masterclass, c'est comme une discussion. Finalement, on parle de certaines choses, on parle de musique. Un jour, il y a un élève qui me dit « Mais comment est-ce que vous faites ça ?» Ça, c'est pareil. On y répondrait certainement différemment à 20 ans qu'à 33 ans aujourd'hui, qu'à 50 ans, qu'à 70 ans. Et un grand maître qui aura passé 50 ans à enseigner répondra encore différemment. Et je pense que ces trois réponses-là correspondent aussi à un moment donné et dans votre vie. Et les trois réponses seront perçues aussi différemment.
Et vous avez senti que vous y preniez goût assez vite à cette chose-là, justement, de transmettre déjà à l'époque la jeune expérience qui était la vôtre.
Oui, j'ai pas forcément plus de souvenirs que ça. Je pense que là, moi, ce qui me passionne, c'est de construire quelque chose. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Alors, bien évidemment, d'avoir la chance de pouvoir faire ça ici, dans ce cadre, c'est juste inouï. Mais le fond, le centre, le cœur de ce projet, vraiment d'être là pour eux, aussi bien moi du côté pour l'aspect musical, violoncellistique, et la fondation aussi, à quel niveau est-ce qu'elle peut les aider. Et ça, c'est pour ça que c'est un projet qui est tout nouveau et qui se met en place aussi. On découvre tous un peu quelles sont leurs attentes, où est-ce qu'ils auraient besoin de nous. Donc voilà, ça va passer par des rencontres alors bien sûr avec des personnalités du monde de la musique, que ça soit un luthier, que ça soit leur faire rencontrer un fabricant de cordes. Comment est-ce qu'on essaye de faire mieux des cordes en travaillant avec des instrumentistes qui sont proches, mais leur faire rencontrer aussi un homme de radio ou un homme de télé. Comment est-ce qu'on répond à une interview? Ça peut être ça, on peut tout imaginer, une rencontre avec un posturologue, un kiné.
Qu'est-ce que c'est qu'un posturologue ?
Un posturologue, c'est quelqu'un qui étudie la position, mais suivant vous, ce que vous faites. Comment est-ce que nous, avec notre corps, on peut prendre conscience de son corors, faire du sport. On peut aller dans 1000 directions différentes, et malheureusement, on n'aura certainement pas le temps de tout explorer cette année, mais moi, je veux qu'on puisse faire des sessions avec des orchestres, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse... Donc, il y a 1000 choses à imaginer, et la chance, c'est que on est dans un bâtiment où on parle d'art, de création, de transmission. Ce sont toutes les valeurs de la Fondation. Donc c'est en ça que ce projet est assez inouï. Sinon on va jamais manger. J'ai faim.
Thank you.
justement, nous ce matin, on vous a entendu travailler le premier mouvement du concerto de Dvorak avec un jeune homme qui s'appelle Aurélien Pascal. Je voudrais bien que vous nous expliquiez au fond ce que, voilà, en une heure de temps comme ça, avec un jeune homme comme lui, vous avez essayé de transmettre et quel dialogue vous avez noué avec lui.
Eh bien, Aurélien, il a un talent, c'est vraiment incroyable. Il est archi doué, mais j'essaye de le pousser à réfléchir plus à pourquoi est-ce qu'on ferait telle chose ou pourquoi est-ce qu'on prendrait tel ou tel choix. C'est-à-dire, comment est-ce que justement nos outils, que ce soit la main droite, la main gauche, le vibrato, le son, la vitesse d'archet, une justesse expressive, une justesse tempérée, pourquoi est-ce que tous ces ingrédients-là, pourquoi est-ce qu'ils sont importants et comment est-ce qu'avec tout ça, on va faire une super sauce digne d'un grand chef et mêler tous ces ingrédients et construire la phrase. Donc, moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est d'essayer de sortir d'eux un maximum de choses, de faire fructifier, de les aider à faire fructifier ce talent, qui est énorme, mais aussi d'essayer de les armer pour, là, quand ils vont se retrouver seuls, qu'ils n'auront plus de professeur, pour se dire, ah oui, mais comment est-ce que je ferais ça ? De se poser les bonnes questions.
Et dans les jeunes gens à qui vous donnez ces classes ici à la Fondation Louis Vuitton, Gauthier, il y a en plus des élèves qui ont... ou qui ont eu, mais des professeurs qui ont été les vôtres, c'est-à-dire Philippe Müller et c'est-à-dire Heinrich Schiff aussi.
Absolument. Donc c'est Aurélien Pascal avec Philippe Müller et Julia Hagen avec Heinrich Schiff. Mmh. Ouais, c'est assez passionnant et c'est en même temps ça me fait aussi un peu sourire de manière positive. Hein. Sourire, c'est presque attendrissant parfois quand je retrouve des indications qui ont été données soit par l'un soit par l'autre. Ça me rappelle moi des souvenirs. Voilà, quand j'étais élève chez eux, ou alors un doigté, ou que tout de suite me ferait penser soit à Philippe Müller, soit à Heinrich Schiff. Et donc ouais, c'est touchant, ça me touche.
L'air des lieux à la Fondation Louis Vuitton avec Gauthier Capuçon sur France Musique jusqu'à 17h.
Ce projet pour moi, il était simple, il était de construire justement quelque chose comme on en parlait tout à l'heure autour de jeunes violoncellistes. Et moi j'ai toujours eu tellement de respect pour les maîtres que j'ai eus, qui sont Annie Cochet, Philippe Müller, Augustin Defebvre avec qui j'ai débuté et puis Heinrich Schiff. qui m'ont donné énormément d'énergie, énormément de temps. Donc c'est pour ça que j'ai voulu construire ce cycle aussi qui s'adresse à des jeunes qui ont déjà terminé leur cycle d'études et qui sont dans une période un peu de transition entre la fin des études et le début d'une vie professionnelle. C'est pour moi un moment clé de notre vie de musicien, même de la vie active en général. Un moment souvent où on a beaucoup de questions. Alors parfois on a la chance d'avoir toujours un professeur sur qui on peut compter, qu'on peut appeler, ou une personne référente, ou un ami. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un... Alors on n'a plus besoin forcément d'avoir quelqu'un toutes les semaines, mais quand même régulièrement d'avoir quelqu'un à qui on puisse demander soit des conseils techniques, soit des conseils sur un programme, sur un... Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment est-ce que je peux faire ça? Et puis voilà, et puis on a quand même encore des vraies questions sur la technique, même à 20 ans, à 25 ans.
Si on revient justement à vos professeurs, à vous, parce que c'est intéressant, ça fait le lien à ce que vous avez à transmettre aujourd'hui justement aux jeunes gens qui viennent ici à la Fondation, Gauthier Capuçon, vous évoquez l'expérience avec Heinrich Schiff, vous avez évoqué les noms d'Annie Cochet et de Philippe Muller. Si au fond, aujourd'hui, comme ça, rétrospectivement, vous deviez dire ce que vous avez appris et gardé d'eux profondément, mais de ce qu'ils vous ont aidé aujourd'hui à transmettre justement à de jeunes élèves, chacun d'entre eux, ce serait quels ingrédients pour reprendre
ouais,
le mot ?
Oui, ouais. Mais ce sont des ingrédients assez clairs en fait pour moi, et ce sont des choses, je pense à Annie Cochet parce qu'elle était là ce matin, elle est venue écouter les cours toute la matinée.
Oui.
Et Annie Cochet, c'est une pédagogue qui a une patience sans limite, j'ai envie de dire sans limite. Elle a pu me répéter des choses 1000 fois avec la même patience. Et c'est vrai que finalement c'est ça la pédagogie, et ça fait son chemin, et ça a fait son chemin. Alors si je dois donner un ingrédient de chacun de ces maîtres que j'ai eus, je dirais que Annie Cochet, elle a mis les bases. On a construit ces bases.
Vous aviez quel âge?
J'ai commencé avec elle. Je pense que la première fois, j'ai auditionné avec elle. Je devais peut-être avoir 12 ans. 12 ans. Annie Cochet et Savoyarde, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Donc, on a travaillé sur ces bases pendant de nombreuses années. Évidemment, je n'avais pas conscience à l'époque. Annie, elle m'a enseigné la réflexion dans un sens. Donc ça, j'en ai pris conscience plus tard. Mais c'était, dans un sens, une technique assez pure. Mais en même temps, pourquoi je fais ça? Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais bien ou pourquoi je le fais mal? Parce que le but, c'est pas de le faire bien ou de mal, c'est de comprendre pourquoi. Sinon, on va refaire la même chose la prochaine fois. Philippe Muller, on a travaillé beaucoup la technique de main. C'est l'école Navarra. La musique, bien sûr, c'était pour moi une nouvelle porte qui s'ouvrait. On a travaillé tout le répertoire. Donc c'était vraiment, on était plus tourné un peu sur la musique. Et Heinrich Schiff, c'était, je pense, si on résume aussi, plus tourné vers le son. Vraiment cette rentrer dans le son du violoncelle.
C'est quoi l'école Navarra, Gauthier Capuçon? Ça vous paraît évident, mais vous êtes lauréat du concours Navarra.
Oui.
L'un de vos élèves ici, Aurélien Pascal, est lauréat aussi hein, de ce concours.
Ça me paraît évident, oui
c'est
et non.
Exactement.
L'école Navarra, Navarra, c'est le père de l'école française du violoncelle. C'est le père de Philippe Muller, puisque Philippe Muller a repris sa classe. Que Philippe Muller aujourd'hui est l'école française de violoncelle. Pour moi, ça a été... Alors après, comment, me demandez pas de la décrire, parce que je trouve que c'est toujours difficile de... Alors bien sûr, il y a tout le travail de main. Navarra, c'est la main droite, c'est la tenue de la main. Et puis c'était aussi peut-être une autre époque. Les choses évoluent aussi, le jeu évolue, les sons évoluent. Maintenant, on va étudier à l'étranger. C'était complètement aberrant il y a encore 20 ans. Maintenant, ça commence à rentrer, heureusement, qu'on puisse aller se nourrir d'une autre culture. C'est pour ça que je suis parti travailler auprès d'Heinrich Schiff. Et ce qui a été génial pour moi, c'est que et Heinrich Schiff et Philippe Muller, dans toutes leurs différences, aussi bien instrumentales que de caractère, ont le même noyau. En fait, ils ont travaillé les deux, sont des élèves d'André Navarra. Donc pour moi, c'était merveilleux de retrouver encore une fois cette base.
Merci.
Merci.
Bon appétit.
Ah, bon appétit.
La baguette de Lionel Bringuier à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Gauthier Capuçon a enregistré ce concerto pour violoncelle en la mineur de Camille Saint-Saëns. On en écoutait le troisième mouvement. Et qui sait, dans quelques temps, les troupes de l'auditorium de la Fondation Louis Vuitton grandiront-elles? Qui sait peut-être aussi ces classes d'excellence de violoncelle que le musicien français y donne, donc jusqu'au mois de juin prochain, donneront-elles naissance à des projets encore plus ambitieux? En tout cas, le lieu y est propice, c'est une belle salle, et surtout si vous êtes parisien ou si vous passez prochainement dans la capitale, eh bien allez faire un tour du côté du jardin d'acclimatation. Le bâtiment de Franck Guéry est vraiment magnifique et les amateurs d'art contemporain y trouveront bien entendu leur compte. Et c'est Agnès Catou qui a enregistré et réalisé ce numéro de L'Air des Lieux. Un grand merci à elle, à Michel Maistre qui était avec nous aujourd'hui, à Marie-Christine Ferdinand qui prépare nos équipes musicales. Toutes les infos, la réécouter, le podcast, vous le savez, c'est sur francemusique.fr.